Bonsoir. Rebonsoir collectif, ça résonne dans cette salle. Non, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, monsieur le maire, merci de nous accueillir à Montreuil-sur-Isle par cette belle journée, fin de journée d'automne. Il a fait beau. Bien, merci à toutes et tous d'être présents. Je vais mentionner les pouvoirs reçus. Loïc Almeras s'excuse pour le début de séance et a donné pouvoir à Isabelle Joucan. Valérie Bernabé s'excuse de ne pouvoir à Patrick Guérin. Marine Kéchine à Pascal Goriot. Yannick Larivière-Gillet à Jean-Luc Dubois. Ginette et En Marche X à Noël Bournonville. Madame Blaise à Monsieur Witt. Carole Hamon à Frédéric Bougeot, Marie-Édith Massé s'excuse de ne pas pouvoir être là et a donné pouvoir à Sophie Le Drian-Kennecdu à partir du moment où elle nous rejoindra. Est-ce que j'en ai oublié? D'après ma liste, non. Je ne pense pas qu'il y ait des absents par ailleurs. Non, je fais au plus court là. Je mentionne que les pouvoirs reçus et je mentionne. Et c'est Sylviane qui est présente ce soir pour Saint-Germain. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Bien, merci. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat. Le maire de la commune. Merci Pascal de le soutenir. Merci. Merci Yvon. À l'ordre du jour ce soir. Ben, l'ensemble des points que vous avez pu voir. Vous avez également reçu lundi un correctif, un complément, un correctif et une demande de retrait. Voilà, c'est ça. Merci. Qui ne figure donc plus à l'ordre du jour que j'ai, moi, sous les yeux. Le complément est bien rajouté. C'est... la proposition de prise de participation au capital de la SIC, un café des possibles. Le retrait, c'est la création d'un poste, parce que la candidate s'est retirée. Donc on n'a pas besoin de valider le contrat. Et puis un complément concernant l'analyse des offres de marché de travaux d'aménagement de la ZAD Olivette. Suite à une phase de négociation qui avait été retenue. Pascal nous présentera ça tout à l'heure. Le premier point de l'ordre du jour propose l'approbation du contrat local de santé. Je vais laisser Aurore faire la présentation de ce point. Contrat local de santé dont on a déjà parlé en conseil communautaire. Pas sûr. Si, sur le fait que nous étions associés à l'IFRE Camille Communauté et le pays de Château-Giron pour établir ce contrat local de santé. Mais je te laisse la parole.
Oui. Donc, effectivement, on est en train de travailler à cette mise en place d'un contrat local de santé sur 3 EPCI, parce qu'un contrat local de santé, ça peut se mettre en place que lorsque l'on a 50 000 habitants et on dépassait pas le quota. Donc on s'est associé avec l'IFRE-Cormier Communauté et Château-Giron. Communauté, et pourquoi ? Parce que c'était des territoires qui n'étaient pas couverts par un contrat local de santé, ce qui était un des points un peu noirs en Bretagne. L'idée de ce contrat local de santé, c'est bien de promouvoir la santé du territoire. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 80% de l'état de santé des individus n'est pas dû au fait qu'ils soient soignés à l'hôpital, mais qui est bien dû à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et en ça, nous, on est quand même des acteurs de santé publique parce qu'on façonne ce territoire. Ce contrat local de santé, donc on y travaille depuis octobre 2024 parce que ça commence par un diagnostic. L'idée, c'est de faire un état des lieux de la santé de la population. Donc ça, ça a été fait sur les trois EPCI grâce au recrutement d'une personne, une coordinatrice du contrat local de santé qui s'appelle Zoé Le Thor. Et pour rappel, son poste est financé à 50% par l'ARS et à 50% par les trois EPCI concernés. Donc on a vraiment travaillé, on s'est beaucoup vu avec Jackie Le Chab pour Château-Giron et Jérôme Bégas pour l'IFRE-Cormier pour travailler sur ce projet. On vous l'avait présenté en conférence des maires, ce contrat local de santé. On vous avait proposé aussi une séance de travail pour vous montrer un peu les fiches actions dont je vais reparler un peu par la suite pour que vous les validiez, donc ça avec les maires. Et puis, on l'a présenté en CODIR à l'ARS il y a moins de 15 jours, 3 semaines, ça passe tellement vite. Donc, qui a validé en fait, ce qu'on proposait. Ce contrat local de santé, vous l'avez sûrement eu en annexe, j'imagine. Donc, il comprend un certain nombre de choses. Les rappels des éléments du diagnostic, les enjeux repérés par rapport à cet état des lieux. Les objectifs globaux définis sur la durée de contrat. Donc un contrat local de santé, c'est un contrat qui va se dérouler pendant 5 ans. Les engagements des différents partenaires signataires, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a le département, il y a la région, il y a la préfecture, il y a tous les partenaires qui vont y être appliqués. Et les gouvernances de l'évaluation. Ce contrat local de santé, bien évidemment, il y a des choses qu'on fait déjà. L'idée, ce n'est pas de refaire ce qu'on fait déjà. Pour exemple, le PAT, c'est quelque chose qui est déjà mis en place sur le territoire. On va intégrer en fait, le PAT comme outil dans le contrat local de santé et on viendra faire des choses en complément du PAT. Il est bien évident qu'on ne va pas refaire des choses qui sont déjà faites. Idem pour le PCAET, c'est des choses qui sont déjà faites sur le territoire, la gestion de l'eau, les mobilités douces. Et tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de venir en complément de choses qui existent déjà et proposer des choses qui n'existent pas, encore. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce plan, il va découler, c'est ce qui est écrit, avec d'une part l'exploitation des données de santé. On avait aussi adressé des questionnaires à vous, communes, pour essayer d'identifier les grands enjeux de santé sur vos territoires. On a aussi mené une enquête à destination de la population, et ça en s'appuyant sur les CODEV. On avait eu à l'époque plus de 600 réponses des habitants du territoire, donc on était assez contents de ça. Et on a réalisé, Zoé a réalisé un certain nombre d'entretiens. On s'est aussi appuyé sur les attentes de l'ARS, parce que l'ARS a quand même une vision des enjeux de santé sur le territoire qui est importante à prendre en considération, et notamment par rapport aux grands enjeux du plan régional santé, plan régional également santé-environnement. Et puis, il y avait vraiment un souhait des arbitrages des élus, qu'ils soient impliqués dans les instances du CLS. Donc on a des copiles, on a des conférences d'entente. Je vous l'ai dit, on l'a présenté le projet en conférence des maires avec les 33 maires, les 33 maires des 3 EPCI y étaient conviés. Et ce qu'on a bien à l'idée avec Jackie Le Chab et Jérôme Bégas pour les autres EPCI, c'est qu'on travaille. Moi, je ne travaille pas pour le contrat local de santé de l'IFRE-Cormier communauté, de l'IFRE-Cormier, de Val-d'Ille. Je travaille bien pour l'ensemble des 3 EPCI. On veut vraiment avoir une vision sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Donc, le plan, il est organisé. Donc, vous avez les enjeux transversaux. Des enjeux transversaux, c'est le développement de la démocratie participative en santé et agir pour une santé inclusive et équitable. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on va retrouver tout au long du contrat. Et puis après, on a des grands axes thématiques qu'on a identifiés, qui sont au nombre de 4. Le premier, c'est encourager des comportements favorables à la santé. Le deuxième, agir sur l'environnement et l'aménagement favorable à la santé. Le troisième, développer des formations et des réseaux en santé. Et le quatrième, contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins. Pour chacun des axes, en fait, on définit un nombre de fiches actions. Habituellement, un contrat local de santé, c'est une vingtaine de fiches actions, 20-25 fiches actions. D'en mettre plus, ce n'est pas forcément réalisable. L'idée, c'est que ces fiches actions, on réalise vraiment ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Après, il y a des fiches actions, ça va être des fiches actions qui vont être sur du temps long. Et puis d'autres fiches actions qui vont plutôt être des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur du temps court. Pour ce qui est de l'axe 1, encourager des comportements favorables à la santé, on a une fiche action sur promouvoir l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Valoriser une alimentation saine, équilibrée et durable. Promouvoir une santé mentale positive. Agir pour la santé des enfants et des jeunes. Déployer un programme de prévention et de promotion de la perte d'autonomie. Créer des conditions propices pour prévenir et lutter contre les addictions. Et prévenir des risques d'exposition solaire. Alors ça, c'est par exemple une petite fixe action qui paraît un peu anecdotique, mais en Bretagne, on est la région où il y a le plus de cancers de la peau. Donc il y a des choses en termes de communication qui peuvent être faites dans ce domaine. Chaque fiche action est organisée un peu de la même façon. Il y a les objectifs de la fiche action, les partenaires qui sont identifiés et qu'est-ce qu'on veut faire de façon opérationnelle. Pour le deuxième axe, agir sur l'environnement et l'aménagement favorable à la santé. Là, on a une fiche action sur tenir compte de la santé dans les pratiques d'aménagement du territoire. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a fait figurer dans notre PLUI comme souhait, puisqu'il y a maintenant un item urbanisme favorable à la santé. Préserver la biodiversité pour mieux protéger la santé humaine et animale. Lutter contre les espèces invasives présentant un risque pour la santé humaine. On est colonisé, ça y est, en Bretagne par le moustique tigre. Alors, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais on va avoir des problématiques comme partout. Avec l'émergence de certains cas de maladies, dans le sud de la France, il y a énormément une recrudescence de cas de chikungunya. Alors on n'en est pas encore là, mais le moustique tigre arrive chez nous, donc potentiellement ces maladies aussi. Promouvoir des habitats intérieurs sains, développer des environnements d'accueil sains pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours au titre du CLS, puisque les lieux d'accueil accueillant des jeunes enfants se sont déjà engagés dans la démarche en répondant via le CLS à un appel à projet. L'idée étant de réduire les expositions dans ces lieux d'accueil du jeune enfant tels que produits ménagers et autres. Et développer la promotion de la santé environnementale à l'école. Il y a certains d'entre vous qui ont des projets de végétalisation, mais ça peut être tout plein de choses. Développer la formation et les enjeux et les réseaux en santé, ça on s'est dit que c'était vraiment important et c'est l'objet de la première fiche action d'avoir une culture commune de la santé entre les collectivités et les acteurs du territoire pour mieux identifier ce qu'il est possible de faire. Renforcer l'interconnexion des acteurs en santé et développer un réseau local sur l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement. Et enfin, on a un quatrième axe, parce qu'on ne pouvait quand même pas l'oublier, c'est contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins en diffusant des bonnes pratiques de prévention et d'accès aux soins à la population. Là, typiquement, l'exemple, c'est quand on va chez le médecin, que les enfants ils ont loupé la cantine et qu'on demande un certificat médical au médecin pour justifier de l'absence à la cantine. Ben, voilà, c'est des choses qui engorgent clairement les médecins. Une autre fiche sur les leviers et les freins d'accessibilité aux soins, l'optimisation du temps médical en limitant les certificats médicaux non nécessaires, ben ça je l'ai dit avant, du coup c'était pas là, et engager une réflexion territoriale sur l'offre de soins. Donc voilà ces quatre axes du contrat local de santé. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait dans un temps un peu record parce qu'on a commencé à travailler sur ce projet en octobre pour avoir le diagnostic, les axes et les fiches actions qui vous sont présentées aujourd'hui. Et voilà, on a beaucoup travaillé, mais on est très content du résultat et on espère que vous le serez aussi.
Merci. Avez-vous des Une demande d'information complémentaire. En effet, Aurore l'a dit, le travail a été fait en un temps record, oui.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Une très bonne question. La prochaine étape, c'est la signature du contrat, qui normalement est prévue le 12 décembre, mais on a des problèmes de disponibilité de la région et de la préfecture sur cette date. Donc on est en train de réessayer de trouver une date qui convienne à plus de monde. Mais c'est vrai que c'est très complexe parce qu'il y a 3 EPCI à mettre dans la boucle. Donc 3 présidents et tous les partenaires, région, département, préfecture. La prochaine étape, c'est signature du contrat et démarrage des actions. On a déjà fait un plan sur les premières actions qu'on va mettre en place en 2026.
Oui.
Donc voilà, c'est des choses qu'on va commencer très vite. Ça a déjà commencé au final. Mais...
Et il y a des revoyures de prévues, parce que c'est signé 5 ans, mais après,
oui.
Y aura un bilan, j'imagine, oui. Au bout. Mais il y a des temps de revoyure tous les ans ou...
Ben ça, on va le faire, je pense, au fil de l'eau, mais on vous proposera sûrement des points d'actualité par rapport au CLS. L'idée, là, c'est que on vous présente des fiches actions, mais que rien n'est figé dans le marbre. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des fiches actions qui sont... Déjà, il y en a qui vont être faites assez rapidement. S'il y en a qu'on trouve au final pas pertinentes ou qu'on identifie des fiches actions qu'on aurait loupées, enfin des actions qui seraient amenées sur le territoire, ça, on peut le revoir au fil du temps. Et ce qui se fait très souvent, c'est que ça, c'est un premier CLS. Très souvent, il y a une version 2. Enfin, au bout de 5 ans, il y a un nouveau CLS avec des nouvelles fiches actions. Voilà.
Merci. D'autres demandes de précision, Isabelle ?
Donc, moi, si je me rappelle, quand j'étais allée à une réunion, selon la fiche action, soit les 3 communautés de communes seront impliquées, soit ça sera plus ciblé sur une commune. Comment on va s'accaparer, par exemple, si une commune est intéressée par une thématique ? Quelle ingénierie elle a ? Voilà. Comment on va fonctionner ? Si vous avez déjà une idée.
Oui, pour chaque fiche action, on a identifié des partenaires. Pour certaines, ça va être éventuellement, on va s'appuyer sur des communes, mais pour d'autres, par exemple, on va mettre en place quelque chose qui est pour les gestes premiers secours à destination des jeunes. Ça se fait via des partenaires bien identifiés, voilà, qui vont même être rémunérés. On a déjà identifié que c'est, par exemple, une action qui commencerait à Liffré-Cormier. Mais qu'on voudrait déployer après successivement sur les autres EPCI. Donc là, c'est un partenaire particulier. Et pour d'autres, ça sera d'autres types de partenaires. C'est vraiment fiche action à fiche action qu'on pourra identifier ça. Mais dans certains cas, pour certaines actions très précises, du coup, on demandera du financement à l'ARS pour qu'elle permette de financer soit l'ingénierie, soit l'action en tant que telle. C'est vraiment action par action qu'on identifie ça.
On est amené à le présenter dans nos conseils ou...
Ah, pardon. C'est libre, mais je pense que ça serait une bonne chose que de dire à nos conseils municipaux qu'il y a un contrat local de santé, qu'on va mener des actions pour après fédérer, et, parce que vos équipes, elles seront peut-être sollicitées à un moment donné, hein, c'est même sûr.
Oui, moi j'avais juste une question, ça a peut-être été dit au début, mais je suis arrivée en retard. Comment ça s'articule par rapport aux politiques communales ou intercommunales ? Par exemple, au hasard, préserver la biodiversité pour mieux protéger la santé humaine et animale. Du coup, comment ça s'articule par exemple avec la politique trame verte et bleue de la CCVIA ?
L'idée, c'est qu'on s'appuie sur ce qui est déjà fait. J'avais pris l'exemple tout à l'heure du PCAET par rapport à l'alimentation. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur ce qui est fait dans le PCAET et qu'on vienne en complément. Et on a essayé de travailler aussi par compétences. C'est pour ça que quand on avait adressé les questionnaires, on avait vraiment des questionnaires communes et des questionnaires VP interco. Par exemple, l'école, quand on va vous... vous faire réfléchir à la qualité de l'air intérieur dans vos écoles, là on va plutôt s'orienter vers les communes et qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les communes, alors que pour tout ce qui est jeunes enfants, sur la qualité des bâtiments, des crèches, c'est déjà quelque chose qu'on a engagé avec les services de l'interco pour le coup. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on s'appuie, c'est un peu complexe du coup, mais qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà et les compétences interco ou communes. On a essayé de le penser comme ça.
Éviter de refaire des, refaire des choses qui se font déjà, simplement s'appuyer dessus comme tu l'expliques, et du coup de les mettre plus en évidence aussi, en termes de contribution directe à ce pourquoi elles ont été élaborées, ces actions, mais contribution à, peut-être un peu moins directe à l'amélioration des conditions de santé sur le territoire.
Oui, et puis l'intérêt de travailler avec deux autres intercos, ce qui est génial, c'est qu'en termes de partage de pratiques, moi, mon idée, c'est vraiment qu'on puisse aller prendre les bonnes idées chez les voisins. Et ça, c'est vachement riche.
Pascal.
Oui, moi, c'est pour la fiche 18. Qu'est-ce que vous entendez par lever les freins d'accessibilité aux soins ?
Alors, là, c'est tout ce qui contribue à l'amélioration de l'accès aux soins. On sait qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre là-dessus. Sur l'accessibilité, il faudrait que je revoie la fiche, mais dans mes souvenirs, ce qu'on s'était dit, par exemple, c'est de mettre en place des systèmes qui favorisent le transport de personnes âgées pour aller chez le médecin. Moi, je me dis que dans ma commune, je pourrais très bien, une fois par mois, être mobilisée pour, ou deux pour emmener une personne âgée de mon territoire. Aller chez le médecin, c'est quelque chose qui ne me prendrait pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est ce genre de truc très pratico-pratique parce qu'on n'a pas beaucoup plus de marge de manœuvre sur ça.
Là, parce que quand on lit ça, les lever les freins d'accessibilité aux soins, on sait très bien que dans nos populations, c'est les médecins qui manquent. Et en mettant une phrase comme ça, j'ai peur que la population pense que nous, on peut jouer sur l'activité des médecins. Donc,
non.
Moi, j'aurais plutôt mis lever les freins techniques et administratifs d'accessibilité aux soins. Comme ça, ça aurait... C'est pareil parce que là, on risque de nous rappeler à l'ordre.
Oui, bah ça, c'est quelque chose que l'on peut effectivement modifier, oui, tout à fait.
Ça, on peut le préciser.
Ça, on peut encore le préciser à ce stade-là. Et même après la signature, on peut changer. C'est des petites choses qu'on peut changer. Merci.
Mais tu as raison parce qu'il faut éviter les mauvaises interprétations, en fait.
Très honnêtement, je ne sais plus exactement ce qui est écrit dans la fiche action. Il y en a beaucoup. Je les ai relus à un moment donné, mais là. Dans mes souvenirs, c'était alors identifier et comprendre les freins et développer les actions d'accompagnement de médiation pour faciliter l'orientation et l'accès. Donc il y avait effectivement plusieurs choses.
Il y a du monde.
Oui, il y a du monde, oui. Après, on sait qu'en termes de effectivement, population de médecins, on a très peu de marge de manœuvre là-dessus. Ça, on est d'accord.
Oui, Yannick.
On voit se développer des infirmières azalées. Donc, on rentre un petit peu, voilà, on va être à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en contact avec les médecins, mais elles devront être en contact avec vous aussi.
Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on avait listé, les infirmières azalées.
D'accord.
D'autres compléments d'information. Ben, je vous propose donc de valider cette élaboration du contrat local de santé, comprenant donc la convention et le plan d'action sur les 4+2 axes que ROR nous a présentés. M'autoriser à signer ces documents dans une date qui prochaine. Et donc je mets aux voix. Qui ne participe pas à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Validation à l'unanimité. Merci beaucoup. C'est un encouragement fort pour pouvoir poursuivre. Les deux autres intercos prennent la même délibération, dans le même calendrier, pour que les signatures puissent se faire, tu l'as indiqué, vers mi-décembre, à peu près. Et que le programme d'action commence déjà à se mettre en place et avec un programme défini d'action priorisée pour 2026. Merci beaucoup.
Aurore, ce programme d'action, comment on va être averti ? Parce que là, tu dis qu'il y a des choses déjà qui sont mises en route, mais on n'est pas trop au courant. je dis le programme d'action. Comment on va être averti, comment vous allez communiquer, et parce que tu nous dis qu'il y a des choses qui sont déjà engagées, mais
bon, alors non, on n'a pas engagé, mais on a commencé à réfléchir quelles choses on pouvait commencer en 2026. La seule chose qu'on a engagée, c'est par rapport aux qualités des intérieurs dans les crèches, parce qu'il y avait un appel à projet et que si on loupait le coche, c'était vraiment dommage et ça commençait. Mais sinon, rien n'est commencé excepté ça pour le moment. Mais on a prédéfini ce qu'on pouvait faire en 2026. L'idée étant d'avoir des choses qui se passent sur les trois territoires et d'avoir des choses qui s'engagent à court terme et puis à plus long terme. Mais ça, je vous tiendrai au courant.
Il y a des ateliers aussi, la reprise du sport. C'est pas avec le CLS qu'on fait ça ?
Sport.
Accompagner des publics à faire une reprise du sport.
Voilà. Oui,
donc
oui.
Ça, nous, on le déploie sur Guipel. Donc, on a dû être destinataire de mail parce que je ne sais pas comment on aurait eu l'info autrement.
Oui.
Donc, il y a eu un travail qui a été fait avec mon adjointe et avec Zoé pour mettre en place des ateliers où il y a une dizaine ou une douzaine de participants qui peuvent avoir accès à des animateurs.
Je suis peut-être passée à côté. Je ne dis pas, mais. Je ne sais pas si mes collègues ont eu l'information, mais
après c'est peut-être des choses qui sont apparues sur le territoire du GIP. On saisit aussi les opportunités. Ça, je l'ai pas vu passer avec Zoé, mais
je vous propose de poursuivre. Le point 2 de l'ordre du jour, assainissement collectif, création d'une régie et approbation de statut. Donc, nous le savons tous, la communauté de communes est compétente en assainissement non collectif depuis 2014 et exerce cette compétence en régie depuis cette création. Par suite de différentes lois, dont je ne vais pas les reciter là, il s'en est déduit un certain nombre d'études et d'analyses, la communauté de communes ayant retenu la volonté d'exercer la future compétence d'assainissement collectif de manière communautaire, de manière homogène et simplifiée sur le périmètre des 19 communes. La souplesse d'exploitation, la stabilité en régie avec coopération d'entente avec Rennes Métropole par rapport à la contractualisation d'une concession et le niveau d'expertise nécessaire à l'exploitation d'un tel service, et le niveau de satisfaction remonté des communes du territoire métropolitain sur la régie existante, le Conseil communautaire a validé le principe d'une prise de compétence assainissement collectif au 1er janvier 2026 avec la mise en place d'une régie avec coopération d'entente avec Rennes Métropole pour l'exploitation de ces systèmes d'assainissement collectif à compter de cette même date. Ensuite, nous avons eu la loi du 11 avril 2025 qui est venue modifier la gestion des compétences eau et assainissement et retirant notamment le caractère obligatoire du transfert de compétences aux intercommunalités. Aussi, par délibération du 10 juin 2025, le Conseil communautaire a validé le transfert de la compétence facultative assainissement collectif sur un périmètre partiel de 14 communes à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, la communauté de communes est compétente en assainissement non collectif et à titre facultatif sera compétente en assainissement collectif à effet du 1er janvier 2026 sur les territoires des communes de Andouillé-Neuville, Fins, Gahard, Guipel, Langouette, Melesse, Montreuil-le-Gard, Montreuil-sur-Ille, Moisé, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Gondran, Saint-Médard-sur-Ille, Saint-Symphorien et Sens de Bretagne. Sur ce périmètre des 14 communes, la compétence assainissement collectif présente à ce jour une gestion hétérogène avec 2 communes en concession de services publics et 12 communes en régie dont la majorité fonctionne avec des marchés de prestations de services pour assurer une partie des charges d'exploitation et souvent limitée aux seules stations de traitement. De plus, un seul contrat de DSP se poursuivra au-delà du 1er janvier 2026 concernant le périmètre de la commune de Moisé. Malgré un périmètre réduit par rapport à la délibération du 17 avril 2024, l'exploitation du service d'assainissement communautaire sous la forme d'une régie à simple autonomie financière apparaît comme la forme juridique la plus adaptée, permettant à l'Assemblée délibérante de conserver les pouvoirs nécessaires à l'impulsion de la politique à mettre en œuvre en matière d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, à la fixation des objectifs et au contrôle de la réalisation de ces derniers. Cette régie doit être dotée de statuts, dont le projet est annexé à la note que vous avez reçue, et vous avez reçu également ces projets de statuts, avec une prise d'effet immédiate pour l'assainissement non collectif, et à effet au 1er janvier 2026 pour l'assainissement collectif sans limite de durée. Une désignation sous le nom de service d'assainissement et le statut de régie à simple autonomie financière sans personnalité morale. La création d'un conseil d'exploitation composé de 6 membres, 5 élus communautaires et un élu communal, qui élira en son sein un président et un vice-président issus des membres communautaires, qui devra se réunir trimestriellement et obligatoirement consulté par le président de la communauté de communes pour toutes les questions d'ordre général intéressant le service, et désignation d'un directeur qui assure notamment la préparation budgétaire et gère les aspects techniques et administratifs de la régie. Et donc pour commencer à mettre en œuvre la gestion de cette compétence d'assainissement collectif sur les 14 communes que j'ai rappelées tout à l'heure, je propose donc de valider ce projet de statut de cette régie et de reporter la fixation du montant de la dotation financière initiale à l'issue du vote du budget 2026. Ce que je propose aussi, c'est que la désignation du conseil d'exploitation se fasse également à un prochain conseil communautaire. Le temps que la préfecture nous valide cette délibération et nous fasse parvenir nos statuts modifiés, incluant l'exercice de la compétence d'assainissement collectif sur le périmètre des 14 communes. Validation de la préfecture qu'on n'a pas reçue à ce jour. Donc, par prudence, il est préférable d'attendre que nous le recevions. Avez-vous des interrogations ?
Oui, juste pourquoi 5 élus communautaires et un élu communal ?
C'est fixé, c'est une règle de... Maxime, vous avez la...
Alors, on doit avoir effectivement dans une régie, à la dans le conseil d'exploitation, à la fois des élus et il doit y avoir une personne associée qui n'est pas élue communautaire. Ça peut être effectivement une personne de la société civile. Voilà. Et on a réalisé une consultation auprès de différentes associations représentatives d'usagers, classiquement. Mais il n'y a eu
aucune candidature.
Donc c'est pour ça qu'il est proposé, pour que ce soit complet, qu'il y ait à la fois 5 élus communautaires et un élu communal qui sera le représentant un petit peu de personnes associées.
Cette régie traitera également de l'assainissement non collectif. Ça paraît important qu'il y ait, au-delà des 5 élus communautaires, un élu communal.
C'est juste comment il va être désigné, cet élu communal.
On trouvera bien la formule. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Donc c'est à partir du 1er janvier 2026 pour...
L'assainissement collectif.
Mais donc pour l'assainissement non collectif, c'est dès maintenant ?
Enfin, c'est dès que le préfet, dès que le contrôle de légalité aura validé ce que je vous propose de vote ce soir.
D'accord, donc financièrement, tout ça va être...
Aujourd'hui, c'est déjà le budget autonome d'assainissement, Philippe, vous pouvez compléter.
Alors, le budget existe, mais il n'est pas autonome. C'est,
non, pardon.
C'est la nouveauté, c'est-à-dire que là, il sera autonome avec un compte banque 515 différencié du budget principal.
Oui, c'est la seule modification, en fait. C'est l'autonomie de ce budget assainissement, globalement. Comment ? En termes de trésorerie, oui.
Et pour que je comprenne bien, donc actuellement, il y a un budget SPANC qui est plutôt...
Assainissement.
Qui a été renommé assainissement.
Oui, mais qui est plutôt excédent. Oui.
Oui.
Et donc le budget non collectif et collectif va être le même. On ne fera plus de différence.
Il y aura un seul budget. Enfin, Philippe.
Alors, le budget va retracer l'ensemble des opérations en assainissement collectif et non collectif, mais sera doté également d'une comptabilité analytique qui permet de distinguer de manière claire ce qui relève de l'assainissement collectif et ce qui relève de l'assainissement.
C'était mon interrogation.
Voilà, donc il y a une compta analytique qui est déjà en place et qui va bien évidemment se poursuivre.
Les précisions sont importantes pour que chacun comprenne bien les fondamentaux, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Par rapport au budget, il y aura du budget RH technique, qui, pour l'entretien des stations, il y a des communes qui auront ça en régie ou une sorte de délégation, mais si la technicité revient à la communauté de communes, est-ce qu'il y a des personnes qui vont être... employés pour entretenir les stations.
Aujourd'hui,
voilà, il y a une équipe à la communauté de communes qui est en charge, d'ailleurs, qui prépare la bascule, mais qui a déjà en charge, de toute façon, l'assainissement non collectif. Donc cette équipe-là va être renforcée. Elle est déjà pour préparer la bascule au 1er janvier 2026, donc avec l'assainissement collectif. Donc ça, c'est l'équipe. Et puis on va mettre en place une convention avec Rennes Métropole pour l'exploitation de l'ensemble. Un certain nombre de stations aujourd'hui ont des contrats qui durent au-delà du 1er janvier 2026. Donc là, elles vont rentrer, je dirais, dans le contrat va rentrer dans nos... C'est à la communauté de communes de prendre en charge ces contrats-là, j'irai jusqu'à la période de fin de contrat. Et après, l'idée, ça sera que tout bascule, pour celles qui ne sont pas basculées, dans la convention de Rennes Métropole. Au niveau des agents.
Moi, je pense à l'entretien de la station en tant que telle. Aujourd'hui, c'est fait par notre agent communal. Demain, ça sera un agent intercommunal.
Ça sera fait pas plutôt par les équipes de métropole. D'accord. Qui seront conventionnées par la communauté de communes, pour être précis. Mais sous, je dirais, le contrôle des agents de la communauté de communes qui veilleront à ce que les choses soient bien faites.
Isabelle.
Pour les budgets communaux, alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, cette fin d'année ? Dans les communes, on va faire quoi, en fait ?
Vos budgets disparaissent. Ouais. S'ils sont identifiés en tant que budget annexe ou pas ?
On vote rien du tout.
Vous serez obligé de voter un compte administratif en 2026 sur l'exercice 25.
Donc, on sera quand même en 2026 ?
Oui. Mais il n'y aura pas de BP, il n'y aura pas de budget primitif, assainissement en 2026 pour les communes.
Ok.
C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont été demandées par Benoît, qui est en charge le projet à la communauté de communes, pour faire remonter toutes les informations, telle façon qu'on prépare. Il y a une réunion cette semaine avec la trésorerie en particulier, pour préparer la migration pour les 14 communes.
En effet. Philippe y a répondu. En début d'année 2026, les 14 communes concernées auront malgré tout un compte administratif à voter.
Je me posais la question si c'était en décembre avant, justement.
Non.
Bon, on ne pouvait pas en décembre, de toute façon. OK.
Pas d'autres questions ? Je soumets donc à votre validation. La création de la régie de services assainissement sur les modalités que j'ai résumées juste avant et de valider le projet de statut de cette régie et de reporter la fixation du montant de la dotation initiale à l'issue du vote du budget 2026.
Donc toutes les communes votent là, même celles qui...
C'est soumis au conseil communautaire. Donc je demande qui ne prend pas part au vote. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Vievi a levé la main, oui. Combiné, si, si. Ça fait 12, du coup. Si j'ai compté, donc 12 ne prennent pas part au vote. Qui est opposé à cette création de régie ? Qui souhaite s'abstenir ? Donc c'est validé à une large majorité. Le point suivant, assainissement collectif toujours, porte sur la convention d'entente intercommunale avec Rennes Métropole, justement, qu'on a évoqué juste avant. Donc la communauté de communes du Val d'Illominié a engagé une prise de compétence volontaire de l'assainissement collectif sur 14 communes de son territoire, à effet au 1er janvier 2026. On attend donc le fameux arrêté que je vous évoquais tout à l'heure, qui était attendu pour fin septembre, mais qui est arrivé le 7 octobre, n'est toujours pas arrivé. Une régie à simple autonomie financière est par ailleurs en cours de création pour assurer la gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif sur les périmètres statutaires de ces deux compétences. Rennes Métropole assure quant à elle la compétence assainissement en régie sur la totalité de son territoire. Elle bénéficie donc de moyens humains et techniques pour y parvenir. Une régie à autonomie financière sans personnalité morale a été constituée au 1er janvier 2016 pour ce qui concerne Rennes Métropole. En s'associant sous forme d'entente, Rennes Métropole et le Val d'Illominié souhaitent optimiser l'utilisation des moyens matériels et humains de ces deux collectivités. Ainsi, Rennes Métropole affecte l'ensemble des moyens spécifiques de sa régie d'assainissement à l'exploitation du service public de l'assainissement sur le territoire du Val d'Illominié et pourra optimiser l'usage de certains biens spécifiques qu'elle possède, tels que groupes électrogènes, véhicules hydrocureurs, véhicules d'inspection TV, etc., en étendant leur périmètre d'utilisation sur celui du Val d'Illominié. De la même manière, certaines compétences spécifiques existent à la régie d'assainissement de Rennes Métropole, telles que chargé de mission management de l'énergie, spécialiste de process et d'autres, et pourront également être utiles sur le périmètre étendu au Val d'Illominié. Côté Val d'Illominié, le recours à ces moyens ainsi mutualisés permet d'accéder à l'ensemble des moyens nécessaires à l'exploitation du service en régie en s'affranchissant de la problématique de taille critique nécessaire au financement de tels équipements ou de recrutement d'agents hyper spécialisés. Dans ce contexte, les deux établissements intercommunaux souhaitent mettre en commun leurs moyens sous la forme d'une entente intercommunale telle que prévue par le Code général des collectivités territoriales dans ses articles L5221-1, L5221-2. La convention annexée a pour objet de déterminer les conditions administratives, techniques et financières de fonctionnement de cette entente pour la gestion commune du service public d'assainissement collectif des eaux usées décidé entre Rennes Métropole et le Val d'Illominié. Elle fixe notamment les droits et obligations à chaque partie ainsi que les modalités de fonctionnement et de leur coopération. Elle prévoit notamment la mise en place d'une conférence intercommunale d'entente, instance dédiée au suivi et à la mise en œuvre de l'entente. Cette instance n'a pas de pouvoir de décision et soumet aux organes délibérants des deux intercommunalités de l'entente des propositions relatives à la mise en œuvre des actions et dépenses communes. La liste des prestations techniques que Rennes Métropole pourra réaliser porte sur l'exploitation du réseau, curage préventif et curatif, la surveillance et la dératisation, la maintenance des tampons, la strate, l'exploitation des installations, stations d'épuration, postes de refoulement, gestion des boues, entretien des espaces verts, évoqué tout à l'heure, la maintenance des installations, maintenance préventive et curative et astreinte, la logistique et les moyens, achat et gestion du magasin, enfin des matériels en magasin, contrôle réglementaire, accueil téléphonique et la gestion des abonnés pour la partie technique. Un principe de neutralité financière guide également cette entente intercommunale. Rennes Métropole refacturera annuellement la stricte compensation des frais qu'elle aura avancés, déduction faite d'un compte trimestriel estimatif versé par le Valdy-Le-Minier, sans en tirer aucun bénéfice. Des annexes techniques et financières qui précisent des moyens communs effectivement dédiés au périmètre de l'entente au 1er janvier 2026. Toute modification éventuelle sera par la suite décidée en conférence intercommunale et soumise à l'approbation des conseils métropolitains et communautaires. Cette convention d'entente intercommunale prend effet au 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée de 6 ans, renouvelable par période de 6 ans, les reconductions ou dénonciations par l'une des parties avec un préavis minimum de 18 mois. Voilà l'objet de cette prochaine délibération. Avez-vous des demandes de précision ?
Oui.
Oui, oui.
Il n'est jamais prévu qu'ils interviennent dans le cas de l'assainissement non collectif.
Non, c'est sur l'assainissement collectif. Aujourd'hui, nous fonctionnons nous-mêmes en régie sur l'assainissement non collectif. Jean-Luc le rappelait tout à l'heure. Donc, on va notre équipe de techniciens maintenant, en assainissement non collectif, continuera à fonctionner selon le programme de travail avec des contrôles, enfin, la mise en place de contrôles périodiques. D'autres questions ?
Oui, moi j'ai une question. Donc je vois qu'il y a des bilans financiers qui sont bien détaillés à l'appui de la délib. Comment ça va se traduire après pour aller à la facturation aux usagers ? Est-ce que j'imagine qu'on travaille déjà là-dessus ? Comment est-ce que c'est prévu ?
Oui, on travaille déjà là-dessus. Rien n'est abouti, rien n'a encore été présenté en termes de tarification, mais ça va venir. Aujourd'hui, il y a un travail qui est mené depuis déjà quelques mois, pour être transparent d'ailleurs, avec le soutien technique de ressources consultants finance. Ils travaillaient pour notre compte, pour rassembler à partir des données que toutes les 14 communes ont pu transmettre en termes de bilan d'une part et de budget de cette année et des prévisionnels de PPI qui peuvent exister sur les communes, un prévisionnel de d'abord le constat des dépenses et ensuite un prévisionnel de dépenses qui permet de venir faire les calculs de la redevance au mètre cube et de la redevance de raccordement aussi. Le travail n'est pas terminé là-dessus, tel que je l'ai mentionné là, et sera proposé avant la fin de l'année en validation du conseil communautaire.
On a bien une réunion jeudi soir pour ce sujet.
Oui, il y a une réunion jeudi soir pour les 14 communes.
D'accord, ok.
Réunion technique. Pas d'autres questions ? Je soumets donc à votre validation la création de cette entente intercommunale avec Rennes Métropole pour l'exploitation du service d'assainissement collectif communautaire selon les modalités précisées dans la convention qui était annexée à la note et dont j'ai rappelé les principaux items dans la présentation. Qui ne prend pas part au vote ? Les 12 voix ? Les 12 voix. Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir, une abstention. Nous le validons et je vous remercie. De manière concomitante, enfin à quelques jours près, le Conseil métropolitain a également validé la création de cette entente intercommunale sur le même sujet. Le point suivant porte sur l'attribution des marchés de travaux de l'aménagement des ZEDA des Olivettes 2. Pascal.
Donc une consultation a été lancée concernant les travaux de viabilisation et d'aménagement de la zone d'activité, les Olivettes 2 à Melès. Il y a eu une procédure de passation utilisée et la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des articles de 21-23 du Code de la commande publique. Décomposition de la consultation, lot 1, terrassement, voirie, assainissement, EPEU, 2, réseau souple, 3, espace vert. Celle-ci a été lancée sur la plateforme des marchés publics Mégalis le 9 juillet 2025 et la date de remise des offres était de le 5 septembre 2025 à 12h. Une publicité dans un journal d'annonce légale Ouest-France a été réalisée en date du 15 juillet 2025. 17 entreprises ont répondu à cette consultation dans les délais. L'analyse des offres et critères retenus pour le jugement des offres sont pondérées de la manière suivante. Pour les lots critères, prix des prestations 50%, valeur technique 50%, indication concernant les moyens humains et matériels affectés à la présence opération 20%, indication concernant les procédés d'exécution, l'organisation du chantier, les phases de travaux, les déviations par phase pour la préparation opération 30%, note indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier à l'égard des personnels, des riverains et tiers 15%, indication concernant la provenance des fournitures, les références des fournisseurs correspondants et la sous-traitance déclarée ou envisagée 20%, impact carbone au chantier 15%, note détaillant les mesures mises en place par entreprise en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au chantier, gestion des déchets, provenance des matériaux, utilisation des matériaux recyclés, déplacement et consommation des engins. Une procédure des négociations étant en cours, l'attribution des offres sera présentée en séance. En sachant qu'à l'ouverture de pays, je crois de mémoire, on était 20% en dessous de l'estimation. Donc, M. Dubois est content. Et on a quand même demandé une négociation supplémentaire, même si on récupère 5 à 10 000, il faut le faire.
Tu n'as pas la suite, toi ? Donc c'est, la suite est à l'écran. Donc le lot 1.
Donc lot 1, suite à l'analyse des offres négociées par le lot terrassement assainissement EPEU, l'entreprise Potin TP est classée première avec une note de 98,5 sur 100. Monsieur le Président propose d'attribuer le lot 1 à l'entreprise Potin TP pour son offre mieux disant d'un montant total de 1 104 853,25 € hors taxe. Lot 2, suite à l'analyse des offres de base pour le lot réseau souple, l'entreprise Bouygues Énergie et Services est classée première avec une note de 95,5 sur 100. Monsieur le Président propose d'attribuer le lot 2 à l'entreprise Bouygues Énergie et Services pour son offre mieux disant d'un montant total de 157 450 € hors taxe. Est-ce qu'il y a eu une descente du prix par rapport ? Je ne sais plus. Suite à l'analyse des offres négociées pour le lot 3 avec Espace Vert, l'entreprise Nature et Paysages est classée première avec une note de 94 sur 100. Donc le Président propose d'attribuer le lot 2 à l'entreprise Nature et Paysages pour son offre mieux disante d'un montant total de 65 843,37 € hors taxe. Le montant total des trois lots est de 1 328 112 € hors taxe.
Si.
Par contre, Maxime, je ne sais pas combien, si la négociation a permis de descendre le prix.
Oui, là, ça a permis de descendre le prix d'environ 80 000 euros par rapport à la première offre moins disante. Sur le lot 1.
Sur le lot 1, oui.
Sur le lot 1. Il n'y avait pas eu de négociation sur le lot 2. Sur le lot 3, les offres sont similaires à peu près. Il y a eu un tout petit peu de négociation, mais assez peu.
Bien. Je vous propose donc de valider l'attribution de ces marchés de travaux, quelques résumés, et de m'autoriser à les signer. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? À l'unanimité, merci. Oui, la négociation a été annoncée dans l'appel d'offres dès le départ. C'est la raison pour laquelle, en effet, lorsqu'avec Pascal, on s'est retrouvé avec les services et TECAM là, pour l'analyse des premières offres, on a en effet souhaité que cette négociation qui avait été annoncée soit mise en œuvre. Et finalement, on a pas mal fait.
On a bien fait, oui.
Le point suivant, ZEDAT Olivette 2, toujours en convention de raccordement électrique avec Enedis.
Donc, suite à l'obtention du permis d'aménager de la ZEDAT des Olivette 2, une demande de raccordement et de viabilisation électrique a été mise auprès des services Enedis. Enedis a réalisé l'étude jointe à l'annexe APS et propose une convention fixant les engagements des parties en lien avec la viabilisation et le raccordement électrique de la zone d'activité des Olivette 2. Le montant de la contribution demandée à la Comcom pour ces travaux est de 233 636,42 € TTC.
Merci. Je propose de valider cette convention, oui, avec Enedis et avec la contribution 233 636,42 € TTC. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Donc nous le validons également à l'unanimité. Merci. Le point suivant, renfort d'offres.
Pardon, Claude.
Pardon.
Donc là, on a aidé 10, mais Orange, c'est pas...
Non, c'est les réseaux souples qui vont être réalisés dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, et c'est ce qu'on a confié tout à l'heure au lot 2, à Bouygues Énergie et Services.
Et donc l'électrique, ça ne fait pas partie de ce réseau?
Non, parce que là, c'est le raccordement au réseau. C'est le raccordement de la zone au réseau.
C'est juste le raccordement qui coûte 233 000 €.
Oui.
Ah.
Et là, on n'a pas pu négocier.
Il y a deux postes transformateurs qui sont créés sur la zone.
En fait, c'est ça. Ça coûte si cher que ça parce qu'il y a deux postes de transfo sur la zone. À partir du réseau existant. Donc, je ne sais pas à quel endroit ils vont le chercher, mais ils vont peut-être chercher assez loin.
Aux Olivettes 1.
Aux Olivettes 1.
Ils repartent.
Donc c'est pas très loin. Et cette délibération qu'on vient de prendre est nécessaire dans le même calendrier que la décision sur les travaux d'aménagement. Parce que nous le savons tous, hein, une fois que les travaux d'aménagement vont commencer, au moment où les équipes d'Enedis ou l'entreprise qui travaillera pour Enedis pourra intervenir, eh bien, ils interviendront. Je peux poursuivre en demandant à Lionel de faire la présentation de la convention de coopération sur le renfort d'offres, ligne 511.
Risgo,
merci.
Donc il s'agit de maintenir la convention de coopération que nous avons avec la région Bretagne. En 2021, on avait fait une première convention de coopération entre la région Bretagne, la communauté de communes Val d'Isle-Aubigné, Rennes Métropole, pour une durée de 3 ans. La première expérimentation de ce renfort d'offres Brisgau et le Pays de Rennes a eu lieu donc de fin août 2021 à fin août 2024. Au bout de cette expérimentation, on en avait tiré les conclusions plutôt satisfaisantes, avec une réelle plus-value sur le territoire. On avait décidé de prolonger d'une année supplémentaire cette expérimentation et renfort d'offres, avec toujours un co-financement région Bretagne, PCI concernée et Rennes Métropole. Pour cette année, on nous demande de prolonger d'une année supplémentaire ce renfort d'offres. On en a déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur des points d'insatisfaction. On n'oublie pas qu'on aimerait bien avoir du renfort d'offres sur la ligne 504. À chaque fois, la réponse des services de la région, c'était la mise en place du syndicat Bretagne Mobilité, qui est effectif depuis début septembre 2024. Donc nous avons enfin notre espace... Bretagne Mobilité,
4 septembre 2025.
Voilà. Excuse-moi. Et donc, c'est l'espace où nous pourrons travailler, notamment dans le cadre de bassins de bassins de mobilité hein, qui vont être mis en place d'ici la fin de l'année. On sent bien quand même que du fait de l'arrivée des échéances électorales, aussi bien communales que communautaires, il ne va pas se décider grand-chose d'ici le mois de mars 2026, mais l'outil est enfin mis en place. Pour revenir sur la poursuite de l'expérimentation 2025-2026, il y a quand même une nouveauté, c'est le désengagement de Rennes Métropole, qui était co-financeur. Aujourd'hui, donc, on part sur un co-financement région à 40% et 60% pour les EPCI. Dans le cadre de cette expérimentation sur le bassin rennais, hein, les EPCI concernés, c'est Val d'Ille-Aubigné, Liffré-Cormier Communauté et le Pays de Château-Giron pour les expérimentations qui les concernent. Donc nous, notre renfort d'offre, c'est sur la ligne 511 qui a remplacé la ligne 11. Rennes-Anatole-France me laisse le feuille. Et donc, il comprend les horaires suivants. Ce sont les horaires de renfort qui sont indiqués ici. Sur la période scolaire et les petites vacances scolaires, 3 services du lundi au vendredi, 2 allées supplémentaires et un retour supplémentaire, 2 services le samedi et 2 allées supplémentaires et 2 services le dimanche, 1 aller et 1 retour. Et sur la période d'été, 3 services du lundi au vendredi, 2 allées et 1 retour et 1 service le samedi, un service supplémentaire avec un aller. Je vous fais grâce des horaires indiqués. La région Bretagne délègue à son prestataire Transdev Ille-et-Vilaine l'organisation des services identifiés. La convention s'applique donc pour une année supplémentaire du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Vous avez la participation indiquée la part Val d'Ille-Aubigné pour l'année, c'est 14 392,51 € avec une partie sur l'année 2025 et une partie plus importante sur l'année 2026. Voilà.
Merci. Je peux soumettre à votre validation. Donc sur cette validation, qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Merci.
Oui, j'aurais dû poser la question avant. Ça, c'est dans le budget mobilité.
Ouais, mais mobilité. D'accord. Le point suivant, Isabelle.
Alors, couleur de Bretagne. Donc cette année, les deux concours ont eu lieu à Gare le 18 mai et à La Mézière le 30 août, à chaque fois avec des participants en nombre. Donc deux événements qui ont été plébiscités. Et comme à chaque fois, la communauté de communes a questionné les élus des communes où ça se passait pour qu'elles choisissent une œuvre qui leur sera offerte par la communauté de communes. Et pour qu'on l'offre, il faut qu'on l'achète. Donc on l'achète à 150 € pièce, donc ça fera 300 €. Et il s'avère que cette année, c'est deux fois le même artiste qui a été retenu. C'est alors le hasard, pas tout à fait, parce que c'est quand même quelqu'un de reconnu au niveau régional. Et on a la chance qu'il accepte de céder ses œuvres à 150 €. Donc les communes qui ont pu en bénéficier, elles vont avoir une très belle œuvre dans leur mairie. Donc voilà.
Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote ? Est opposé, qui souhaite s'abstenir. Donc voilà, nous validons. Il reste à faire le nécessaire pour que ce soit prêt pour le début, tout début d'année prochaine. Pour les vœux communautaires qui auront lieu le. Le 12 janvier 2026, et tu nous as dit, Pascal, Guiton Menuiserie. propose de poursuivre. Jacques, une accession EDP SLA, une garantie d'emprunt.
Oui, donc la société CAP Accession a sollicité la communauté de communes du Val d'Illobinié pour qu'elle garantisse à hauteur de 100% son emprunt relatif au logement en PSLA de l'opération Le Courtil de la Salle située à La Mézière. Cette garantie d'emprunt dans le code de résiliation de logement en PSLA est prévue dans l'orientation 1 du PLH, c'est-à-dire maintenir des conditions favorables d'attractivité en garantie et un développement partagé du territoire pour assurer ainsi l'équilibre. De même, le règlement d'intervention en faveur du logement social validé en conseil communautaire du 12 juin 2019 indique que la communauté de communes du Val d'Illobinié octroie sa garantie d'emprunt aux organismes et selon les modalités définies aux articles L2252-1 et suivant du CGCT à hauteur de 100% pour les opérations en PSLA ayant fait l'objet d'une décision favorable pour bénéficier ainsi des aides de l'État. Les caractéristiques de l'opération en PSLA sont les suivantes. Nombre de logements, 4 logements pour une maison groupée. L'agrément du conseil départemental a été délivré le 29 juillet 2025. Le taux de commercialisation est de 4 logements réservés, soit 100% de la grille de vente TTC. Les caractéristiques du prêt à garantir sont les suivantes. Montant du prêt, 1 054 315 euros. L'organisme bancaire est Arkéa Bank, EI filiale du Crédit Mutuel Arkéa. La durée du prêt Arkéa Bank et accorde le prêt pour 30 ans maximum. Et CAP Accession évalue la durée de remboursement à 5 ans maximum en tenant compte du temps de la construction et de la levée des options des acquéreurs. Le taux est de 3,40% indexé au livret A et qui est de 2,40% à ce jour.
En réalité, oui.
En réalité.
Le taux de livret A ayant baissé. Donc c'est des garanties d'emprunt que l'on fait régulièrement pour des opérations de ce type. Donc je vous propose de valider, d'accorder cette garantie d'emprunt de la communauté de communes pour cette opération de PSLA et de m'autoriser à signer cette convention avec la société CAP Accession. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Ok, en vous remerciant. Le point 9, escale fluviale de Bretagne, arrêt de l'adhésion. Donc, association qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs publics et privés afin de favoriser la concertation, la coordination et de réaliser des actions dans une ambition partagée de valorisation touristique, patrimoniale et de loisirs des voies d'eau de Bretagne dans un objectif de développement durable. En 2025, le plan d'action portait 4 sur 4 axes, qualifier des sites riverains, permettre une meilleure lisibilité des sites, développer une offre de séjour et d'itinérance de qualité. L'axe suivant, animer les voies d'eau, objectif donner une image dynamique et moderne de ce territoire afin de faire des canaux un lieu de vie animé et communiqué pour assurer la promotion des adhérents auprès du grand public et d'échanges de savoir-faire auprès d'autres associations ou structures en dehors de la Bretagne. Pour les 6 communes de notre communauté de communes traversées par le canal d'Illérance, la cotisation demandée est identique à celle de 2024, c'est-à-dire 2424 euros. J'aurais dû relire, là, parce qu'on demande deux choses ou une seule chose. Donc la demande, c'est au regard de l'essoufflement de l'association et de la chute du nombre de ses adhérents, vous avez vu les chiffres, en 2019, il y avait 200 adhérents. En 2024, il n'y en a plus que 69. Du faible impact estimé des actions menées au terme d'animation et de promotion touristique pour notre territoire, pas de communication visible. Donc la proposition faite au conseil communautaire est de privilégier le partenariat avec l'association de la Maison du Canal pour les animations de promotion touristique autour du canal et plus en proximité, en fait, et de ne pas reconduire l'adhésion à l'association Escale Fluviale de Bretagne. Donc, la proposition que je soumets au conseil communautaire, c'est de mettre fin à l'adhésion de l'association Escale Fluviale de Bretagne. Et ma question complémentaire est, à partir du 1er janvier 2026 ou dès maintenant? Pour 25? L'année passée.
Il me semble qu'il y a déjà eu des contacts avec l'association et que ça peut se faire en cours d'année.
Okay.
Et que dès à présent, il y aurait
donc fin d'adhésion. La proposition en fait au conseil, c'est compte tenu de la faible dynamique que ça apporte, c'est d'arrêter l'adhésion à partir de maintenant et de ne pas régler la cotisation 2025. C'était ça qu'il me manquait. Et de ne pas régler la cotisation 2025. C'est clair pour tout le monde ? Je soumets donc à votre validation. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Donc nous le validons à l'unanimité. Le point suivant, Observatoire de l'environnement en Bretagne. Frédéric. Oui,
deux modifications pour la convention, constitutive du GIP. Donc, pour rappel, l'OEB, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, est de la volonté conjointe de l'État et de la région Bretagne. Le groupe de, donc elle accompagne depuis 2007 la mise en œuvre des politiques publiques d'environnement en Bretagne dans deux domaines d'action, l'observation et l'accès à la connaissance environnementale. La cohérence dans les interventions de l'État, de la région, des collectivités territoriales ainsi que celle des autres acteurs institutionnels et socio-économiques est cependant indispensable à la qualité de l'offre de services en données environnementales pour l'action dans les territoires. C'est donc par une collaboration renforcée entre l'OEB et les acteurs du territoire que l'État et la région ont souhaité conforter la mission en s'appuyant sur le plan de développement stratégique 2020-2025 adossé à la présente convention constitutive. Ainsi, la communauté de communes a adhéré à l'OEB en mars 2021. Suite à l'Assemblée générale du 22 mai 2025, les membres ont décidé de modifier la convention constitutive afin de prolonger cette dernière jusqu'à septembre 2027. Cette décision a pour objectif d'accorder un délai supplémentaire pour la phase d'évaluation du plan de développement stratégique 2020-2025 de l'OEB. Ainsi, deux modifications à cette convention sont proposées. Ce sont les suivantes. Donc, l'article 4, modification de la date de fin de groupement qui passerait donc au 20 septembre 2027 au lieu du 20 février 2026. Et enfin, l'article 5, avec la suppression d'un membre, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération, qui ne souhaite plus adhérer. Il vous est donc proposé d'accepter la modification, ces modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public, donc le GIP, Observatoire de l'environnement en Bretagne.
Ok, merci. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Je soumets donc à votre validation de modification de la convention du GIP, en fait. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Validons à l'unanimité. Le point suivant.
Je voudrais juste rajouter, si tu permets, Claude, de rappeler que l'OEB donc, est un observatoire et recense toutes les données sur l'environnement, la qualité de l'eau, de l'air, etc., etc. Donc on s'en sert notamment dans le cadre du PCAET et les communes ont accès à ces données. Donc vous pouvez facilement, le fait que la communauté de communes y adhère, vous avez accès à ces données. Voilà.
Ma voisine complétait en disant que c'était indispensable d'avoir accès à ces données.
Et pourquoi une grosse collectivité comme Saint-Brieuc-Aglo, ils ont donné des raisons ?
Peut-être qu'ils n'ont pas de PCAET, peut-être qu'ils n'ont pas de service environnement.
Ah si, ils en ont un très étoffé même.
Non, bah, voilà. Ils ont souhaité ne plus adhérer, je n'ai pas la réponse.
Ils ont peut-être leur propre observatoire.
Bien, il nous était proposé, compte tenu qu'ils ont décidé de leur côté de ne plus adhérer, ben non. Le point suivant, oui, Pascal, une DIA.
Oui, une DIA reçue à la communauté de communes le 4 septembre après qu'elle soit parvenue le 28 août à la mairie de Meulès. Elle nous a été adressée par Maître Pinsard. Il s'agit d'une parcelle sur Meulès d'une superficie de 3030 m². La vendeur, c'est la SCI Faritas, représenté par Frédéric Rialan, et l'acquéreur, ce serait M. Sébastien Moisé, domicilié à Passé. Le prix de vente est de 1 050 000 hors frais plus frais d'acte, hors taxe plus frais d'acte. Et en fait, c'est un bâtiment d'entrepôt de 1083 m² et c'est précédemment l'entreprise Lamifilm, dont M. Frédéric Rialan avait été directeur, qui remplacé donc à cet endroit-là.
Donc proposition de ne pas préempter.
On ne préempte pas.
Je soumets à votre validation. Ne pas préempter. Qui prend pas part au vote? Qui est opposé à cette proposition? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons qu'on ne nous préemptons pas. Merci. Domaine de Boulay, reprise d'un lave-verre pour recyclage.
Vu le montant très important, on ne va pas. Dans le cadre de l'exploitation de la cafétéria du domaine de Boulay, il avait été fait l'acquisition d'un lave-verre en 2009 pour une valeur de 956,80 euros. C'est un matériel totalement amorti, mais il est hors service, donc il a fait l'objet d'un remplacement début 2025. Et la société Métro a proposé la reprise de ce matériel pour une valeur de 48 euros TTC afin de procéder à sa destruction. Donc il est proposé d'accepter cette offre et d'effectuer la sortie d'inventaire comptable de ce matériel dont vous avez le numéro 2903 pour une valeur de 956,80 totalement amortie.
Merci. Je soumets à validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Donc nous le validons. Merci beaucoup. Les deux décisions modificatives à suivre.
Oui, donc après l'attribution des deux derniers fonds de concours, celui de Melès et de Saint-Aubin-d'Aubigné, les crédits disponibles restants sur la ligne des fonds de concours est d'environ 76 000 euros. Donc on est sur la période 21-26. Et donc afin de pouvoir faire face à d'autres demandes de fonds de concours d'ici à la fin de l'année, il convient d'abonder les crédits à l'opération 0052 fonds de concours aux communes d'un montant de 230 000 euros. C'est la réserve qu'on propose en utilisant les crédits en service de variable d'ajustement au budget primitif. Donc là, c'est ce qui est proposé d'augmenter, je dirais, le budget du fonds de concours d'ici la fin de l'année pour satisfaire les demandes qui ont été annoncées.
Merci. Donc je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En effet, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu unanimité sur
cette délibération. On est à 96% de réalisation. Donc il faut mieux mettre un peu de...
La suivante.
C'est la 14, oui. Suite à l'ajout d'avenants pour travaux complémentaires, donc on a des écritures budgétaires d'un montant de 31 000 euros dans le cadre du domaine de Boulay pour des avenants sur travaux, pour l'aménagement du site du domaine de Boulay. Il est constaté que les montants votés sur le budget primitif sont insuffisants pour régler ces factures en lien avec les avenants. Donc il est proposé de modifier, j'ai perdu ma ligne, de modifier d'autant le budget du domaine de Boulay, quand je retrouve ma ligne, donc de 31 000 euros.
Merci, je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons à l'unanimité. Des admissions en non-valeur pour suivre.
Il y a une demande du trésorier du SGC avec qui on a fait le point sur les non-valeurs de créances irrécouvrables et éteintes. Il y a deux sujets, puisqu'il y a un sujet pour une période sur le budget assainissement. Donc là, il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et comptables, il appartient au comptable public de procéder sous le contrôle de l'État aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Donc cette demande concerne des titres de recettes émis en 2021 et 2022 correspondant à des créances pour lesquelles le trésorier n'a pas pu aboutir dans les procédures de recouvrement. Et donc les montants s'élèvent à 750 euros. Pour les créances irrécouvrables, compte 6541 et se décompose sur les deux années comme suit, 300 pour 2021, 450 pour 2022. Alors, donc, ça, c'est pour les années 2021 et 2022. Et donc, d'accorder la décharge au comptable public.
Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci, nous le validons à l'unanimité. La suivante.
Là, ça concerne les admissions en non-valeur et créances éteintes 2025 au budget principal. Donc, c'est le même sujet que précédemment. Et donc, ça concerne des titres de recettes émis entre 2018 et 2024 et correspondant à des créances pour lesquelles le trésorier n'a pas pu aboutir dans les procédures de recouvrement et le montant s'élève à 5 146,23 € pour les créances éteintes au compte 6 542 et 22 598,02 €, soit 22 583,16 € et 14,86 € de créances minimes pour les créances irrécouvables au compte 6 541, et vous avez le détail année par année. Et en annexe, vous avez le découpage. C'est principalement lié aux ordures ménagères Valcobrez, hein, pour un montant de 22 691,05 €, ou pour les ordures ménagères côté pays de Fougères pour 1 996,82 €. Je ne vais pas détailler. Il y a un certain nombre d'autres lignes plutôt, mais les deux grosses lignes sont celles-là.
Merci.
Et le tourisme de camping tourisme de Saint-Ménard, j'ai oublié, 2643, avec oui. Une deuxième ligne importante, significative.
Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validé à l'unanimité. La suivante, Jean-Luc.
Jusqu'à 2023, donc les ordures ménagères étaient en budget sur le budget principal, mais depuis elles sont sur un budget spécifique ordures ménagères. C'est pour ça qu'on doit avoir aussi, je dirais, un point sur ces créances, ces admissions en non-valeur et créances éteintes pour le budget d'ordures ménagères pour les années 23. C'était 23 et 24, ça s'est arrêté en 22. Et donc, ça concerne les titres de recettes émis en 23 et 24 et correspondant à des créances pour lesquelles le trésorier n'a pas pu aboutir dans les procédures de recouvrement. Et donc, ça s'élève à 6,35 pour les créances irrécouvables au compte 6 541 et 1 171 € pour les créances éteintes au compte 6 542. Et vous avez le détail. Et donc, c'est évidemment, puisque c'est le budget ordures ménagères, que des sujets d'ordures ménagères et uniquement pour Valcobrez.
Que Valcobrez. Oui. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc validé à l'unanimité. Merci. À suivre au point 18, validation des lieux de conseil communautaire de début d'année 2026. 13 janvier, Andouillé-Neuville. 10 février, Gare. 24 février, Montreuil-le-Gard. 24 février, ce sera le vote du budget. Donc, il faut formellement le valider, c'est ça? Pas d'opposition. Qui ne prend pas part au vote? Des oppositions, des abstentions. Nous le validons formellement. Le point 19, un café des possibles, une proposition d'une prise de participation au capital de la SIC. Pascal?
Oui, merci. Donc, je vais vous rappeler le contexte. Un café des possibles est né à Guipel en 2017 d'une volonté citoyenne forte, celle de créer un lieu vivant, convivial et utile au territoire. Dès son origine, le projet s'est donné pour mission de mettre en avant le patrimoine local à travers la valorisation des produits de saison issus de l'agriculture biologique et en travaillant en lien direct avec les producteurs locaux. Conçu comme un bistrot, restaurant, épicerie, un café des possibles est aussi un laboratoire d'initiatives locales. Il se veut un espace d'échange, d'écoute et d'innovation sociale où chacun, habitant, association ou porteur de projet, peut proposer des idées, trouver des soutiens et contribuer à la vitalité du territoire. Il s'appuie à la fois sur 2 à 3 salariés, soit 2,2 équivalents temps plein en 2025, et au moins autant de bénévolat, dont l'investissement humain est essentiel au fonctionnement du lieu. Il réalise un chiffre d'affaires d'environ 240 000 euros. Dès sa création, un café des possibles a adopté le statut de société coopérative d'intérêt collectif, autrement dit SIC, s'inscrivant pleinement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. La gouvernance est démocratique et participative. La structure réunit environ 150 sociétaires répartis en plusieurs collèges, les bénéficiaires, les salariés, les personnes morales de droit privé et celles de droit public. La commune de Guipel fait partie des sociétaires depuis l'origine, marquant ainsi son engagement dans ce projet collectif et citoyen. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'établissement réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 240 000 euros, traduisant une activité solide, mais encore fragile dans un contexte économique tendu pour les commerces de proximité et fragilisé par le départ des salariés fondateurs en 2024, le manque de capitalisation initiale et le poids des remboursements d'emprunt contractés à la création et lors de la période du Covid. Aujourd'hui, ils sont intégralement remboursés à date. Ainsi qu'une régularisation URSSAF de 5 760 euros restant à rembourser à date. Pour autant, un travail d'analyse et de prospective mené en 2024 par des sociétaires a mis en exergue la viabilité économique une fois les derniers remboursements terminés, soit en courant 2025. Début 2025, une nouvelle équipe salariée a pris le relais, redonnant dynamisme et cohésion au projet. L'administration du café s'appuie désormais sur les préconisations issues du travail de refondation, garantissant une gestion rigoureuse, participative et durable. Le lieu a retrouvé un élan collectif fort, confirmant sa vocation première, être à la fois un commerce de proximité, un espace culturel vivant et un moteur d'initiatives locales. Un café des possibles propose à la communauté de communes Val di Lobigné de devenir sociétaire, comme l'autorise la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette prise de participation au capital de la SIC permettrait à l'EPCI de reconnaître pleinement le rayonnement intercommunal de Un Café des Possibles, notamment via l'activité culturelle tout au long de l'année, sur place ou décentrée au bord du canal lors des guinguettes, soutenir un apport de capital à la SIC, participer à la gouvernance de la structure et disposer d'un droit de vote en tant que sociétaire membre du collège des personnes morales de droit public lors des assemblées générales. Au titre de sa compétence développement économique, la communauté de communes peut soutenir les structures coopératives à fort ancrage territorial qui jouent un rôle majeur dans le développement de services à la population, la création d'emplois non délocalisables et la contribution à la qualité de vie sur le territoire. La société coopérative d'intérêt collectif permet d'associer salariés, bénéficiaires, bénévoles, collectivités territoriales ou tout autre partenaire voulant agir ensemble dans un même projet alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale. Il s'agit d'une entreprise coopérative sous la forme d'une société commerciale SARL ou SAS, pour le coup c'est une SAS, qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Elle est confrontée aux mêmes contraintes de gestion et de rentabilité que toute entreprise. La lucrativité est limitée ou nulle. Il y a une obligation de réinvestir dans l'activité la quasi-totalité des excédents. Les décisions se prennent sur la base du principe « un associé, une voix ». Les statuts peuvent prévoir le décompte des voix par collège de vote. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50% du capital d'une SIC. Plusieurs collectivités de différentes catégories ou territoires peuvent être co-sociétaires d'une même SIC à condition de justifier chacune d'un intérêt public local et à l'aune de leurs compétences légales respectives en raison d'au moins une activité de la SIC. Une collectivité peut tout à fait être sociétaire d'une SIC et contractualiser par ailleurs avec celle-ci, que ce soit sous forme de subvention, marché public ou délégation de services publics. L'entrée de la communauté de communes dans la SIC Un Café des Possibles se fait via la prise de participation au capital à hauteur de 10 000 euros, soit 1 000 parts de 10 euros. Comme tout associé, le PCI peut sortir librement de la société dont le capital est variable après délibération par le même organe ayant pris la décision d'entrée et notification à la direction de la SIC. Le capital social sera remboursé au plus à la valeur nominale. La responsabilité de la communauté de communes est limitée, comme pour tout autre associé, à la valeur des parts qu'elle a souscrites ou acquises. Alors, il faut retenir les points importants figurant dans les statuts. Un café des possibles est une SIC avec des statuts d'une SAS, Société par Action Simplifiée. Les catégories d'associés sont définies comme suit. Il y a la catégorie des salariés, la catégorie des bénéficiaires et soutiens, la catégorie des personnes morales de droit public, la catégorie des personnes morales de droit privé. Au sein de la SIC Un Café des Possibles, il est constitué 4 collèges représentatifs des catégories. Les associés relèvent de l'un des 4 collèges. La répartition des droits de vote est la suivante. Le collège des salariés représente 40%, le collège des bénéficiaires 30%, le collège des personnes morales de droit privé 15%, le collège des personnes morales de droit public 15%. La SIC assurera les missions suivantes. Créer du lien social dans la commune de Guipel et ses environs. Ouvrir un lieu offrant des services de proximité, des activités ouvertes à tous. Favoriser la rencontre et l'émergence de projets individuels ou collectifs, qu'ils soient culturels, sociaux ou économiques. Démocratiser l'accès à une nourriture saine, de qualité, locale et ayant un impact limité sur l'environnement. Valoriser les savoirs et savoir-faire des habitants et notamment des producteurs locaux. Faciliter l'accès à la culture pour tous via une programmation variée. Mettre en réseau les différents acteurs du territoire pour favoriser les coopérations, accompagner et conseiller les porteurs de projets. Le capital social initial était de 22 000 euros. En septembre 2025, celui-ci s'élevait à hauteur de 65 510 euros. Le conseil coopératif constitue l'organe d'administration et de contrôle. Il est garant de la cohésion au sein de la société entre les différentes catégories d'associés et entre les différentes activités au sein de la société. Il a pour rôle le suivi du sociétariat. Il administre les différentes activités de la SIC en veillant au respect et à la mise en œuvre des orientations déterminées par l'Assemblée générale. Il est garant du respect par les commissions du cahier des charges, fixé dans le règlement intérieur. Il priorise les dépenses engendrées par les actions des commissions. Le conseil coopératif est composé d'une part de membres élus par l'Assemblée générale et d'autre part de représentants des commissions telles que définies dans le règlement intérieur. Les commissions sont chargées de participer au bon fonctionnement des activités quotidiennes de la SIC, d'impulser de nouvelles activités, projets et d'animer la vie coopérative. La commission est créée à l'initiative du conseil coopératif qui approuve ses attributions et lui confère la mise en œuvre d'activités. Les commissions sont composées d'associés volontaires, quelle que soit leur catégorie, dont la modalité des mandats est inscrite dans le règlement intérieur. Les commissions se réunissent aussi souvent que nécessaire. L'Assemblée générale se compose de tous les associés. Les votes se font par collège. L'Assemblée générale ordinaire annuelle fixe les orientations générales de la SIC, prend connaissance des nouveaux associés, élit les membres du conseil coopératif, peut les révoquer et contrôle leur gestion. Approuve les conventions passées entre la SIC et un ou plusieurs membres du conseil coopératif, désigne les commissaires aux comptes, approuve ou redresse les comptes, ratifie l'affectation des excédents nets de gestion proposés par le conseil coopératif, peut décider de l'émission de titres participatifs, donne au conseil coopératif des autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants. L'Assemblée générale extraordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée générale annuelle. Elle peut exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel et ou moral à la SIC, modifier les statuts de la SIC, transformer la SIC en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative, créer de nouvelles catégories d'associés, modifier les droits de vote au sein de chaque collège, ainsi que la nature et le nombre des collèges.
Merci. Donc, la proposition soumise au vote ce soir est une prise de participation dans la SIC Café des Possibles que Pascal vient de nous présenter à hauteur de 1000 parts d'un montant de 10 euros chacune, soit 10 000 euros, de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces nécessaires dont le bulletin de souscription des 1000 parts sociales ainsi que tout document relatif à l'exécution de cette délibération, de désigner Pascal Goriot, en tant que représentant élu mandataire de la communauté de communes Val-d'Illobinier pour siéger aux instances de la SIC, un café des possibles, sachant que l'élu ne siégera pas dans les commissions d'éventuelles attributions de marché public à la SIC. C'est une précision qui va de soi, mais qu'il est quand même préférable de bien rappeler, et d'affecter les dépenses aux lignes budgétaires du budget principal correspondant. Aux lignes budgétaires du budget principal correspondante. Avez-vous des questions, des demandes de précision?
Oui, Claude, c'est suite à leur demande du Café des Polices? C'est suite à une demande?
Ils ont sollicité la communauté de communes et ça rentre dans une nouvelle politique d'appui à l'économie sociale et solidaire.
À ce titre, c'est dans nos compétences.
Oui, et on ne risque pas d'avoir une jurisprudence s'il y a d'autres demandes?
Alors, en fait, la question a déjà été posée, mais une SIC ne se monte pas comme ça parce qu'elle a envie de se monter. Il faut que l'activité n'existe pas déjà dans la commune concernée. Donc on est assez tranquille là-dessus. On pourrait imaginer avoir d'autres SIC à s'installer sur des communes qui aujourd'hui ne bénéficient pas de ce type d'activité, enfin le type de commerce en l'occurrence. Mais voilà, on apporte une alternative à ce qui existe déjà.
Merci. D'autres demandes de précision? Question? Bien. Je soumets donc à votre validation ce que j'ai présenté en termes de conclusion après la présentation de Pascal. Approuver la prise d'une participation à la SIC, un café des possibles, 1000 parts à 10 euros, 10 000 euros. De désigner Pascal Goriot, je précise, comme représentant de la communauté de communes à la SIC, pour siéger aux instances de la SIC, m'autoriser à signer l'ensemble des pièces, bien entendu, dont le bulletin de souscription des 1000 parts sociales, ainsi que tout document relatif à la présente délibération, et d'affecter les dépenses aux lignes budgétaires du budget principal correspondante. Qui ne prend pas part au vote? Deux. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? J'en compte 4 là. 5. Bien, donc nous adhérons à la SIC, un café des possibles. Merci.
Merci.
Dévalider le PV. Avant de se séparer, il y a à suivre dans la note de synthèse les éléments d'information qui sont dus à chacun d'entre vous. Et je termine par un point pour lequel j'aurais pu commencer, qui était votre validation du procès-verbal de la séance du 9 septembre. La séance du 9 septembre.
Il y avait une question. Non, mais après.
Ah bon. Donc sur la validation du procès-verbal de la réunion du 9 septembre, pas de remarques. Je considère que nous le validons. Et puis, vous aviez également en pièce annexe le procès-verbal du bureau délibératif du 29 août, je le dis de manière explicite, la Chambre régionale des comptes ayant rappelé que c'était important que l'ensemble des conseils communautaires et bien connaissance des décisions prises en bureau délibératif. Comment ? Des conseils communautaires ? Et les connaissances des décisions prises par le bureau délibératif. Tu voulais ?
Oui, moi j'ai trois questions. La première, c'est dans le cadre de sa compétence GEMAPI, la communauté de communes avait organisé le 26 septembre une réunion réunissant la région, etc., sur les problèmes des inondations à Fins. Cette réunion a été brutalement arrêtée par mail en plus, à 14h le midi, donc il faut encore être sur son mail à 14h pour vérifier s'il y a la réunion ou pas. Je trouve que c'est un peu cavalier. Et depuis, il n'y a plus rien. C'est un sujet extrêmement sensible. La population de Fins, qui est victime de ces inondations, attend une réaction de la communauté de communes. Et aujourd'hui, on n'a rien. N'est-ce pas, Daniel ? On attend. On attend. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est moi qui ai pris la décision de reporter cette réunion. Parce que les éléments... Je ne disposais pas des éléments suffisants pour que la réunion puisse se tenir. J'aurais pu vous appeler, c'est vrai.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait, là ?
Il est bien prévu que cette réunion soit reprogrammée.
Quand ?
J'ai pas de... On peut arrêter une date assez vite. Simplement, j'ai besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir fixer la période dans laquelle une date peut arrêter, peut être arrêtée.
Là, on arrive en hiver, s'il y a encore des inondations, oui, et qu'on n'a pas bougé.
Non, c'est...
Moi, je t'enverrai les gens. Hein.
L'idée, c'est bien que ça se fasse avant l'hiver. Oui. Oui, oui.
Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'avais demandé au dernier conseil communautaire s'il y avait une DSP sur le camping municipal. On m'a dit non, oh là là, il n'y a rien du tout. En fin de compte, il y a un appel à projet.
Il y a un appel à projet, oui.
Oui, ben, ça ne devrait pas passer en conseil communautaire ou en bureau, ce genre de choses ?
C'est passé en bureau.
C'est passé en bureau ?
Oui.
Ouais, j'ai loupé un épisode, alors.
C'est passé en bureau. Oui. C'était... Non, non, 3 semaines.
Ah bon ? Je n'ai pas souvenir. Enfin bon.
Si.
OK. Et la troisième, est-ce que vous avez encore... Quand est-ce qu'on va avoir un rendez-vous chez le notaire pour la vente du commerce de fin ? Ça fait 7 mois que la communauté de communes a pris une délibération sur la vente et j'attends toujours qu'on ait un rendez-vous. Alors vous nous bloquez, c'est sympa. Alors si c'est pour me faire chier, c'est réussi.
Non, c'est
merci, monsieur le directeur général des services. Vous avez réussi à bien m'emmerder. Maintenant, on va arrêter de jouer. Quand est-ce que vous vous décidez à prendre un rendez-vous ?
Les contrôles techniques obligatoires avant toute vente chez un notaire sont en cours. Je n'ai pas de retour qu'ils sont faits, mais je sais qu'ils ont été commandés. Je regarde Maxime qui approuve. Et donc, dès que les comptes rendus de ces comptes rendus techniques nous sont parvenus, date sera prise auprès du notaire qui, tant qu'elle ne... Le notaire, l'étude de notaire qui, tant qu'elle ne reçoit pas les copies de ses comptes rendus techniques, ne veut pas fixer de date. Voilà. Je pensais qu'on pouvait avancer en parallèle sur arrêter une date et puis faire en sorte que les comptes rendus techniques nous arrivent avant cette date. L'étude ne le souhaite pas.
Enfin, on est à 7 mois de la délibération quand même.
Je sais. Ça aurait pu être fait plus vite, oui. Bien. Est-il d'autres questions ? Bien, donc je vous remercie pour cette réunion et vous souhaite une belle fin de soirée. Yvon fait signe que la commune offre un verre dans la salle, dans la verrière. Merci.